Consonne.
L.
Voyelle.
E. Consonne.
C. Voyelle. A. Voyelle. A. Consonne. C. Consonne. T. Voyelle. Consonne.
Qu'est-ce que je viens de dire, sa mère ?
Mais c'est pas possible.
Écoute, je t'assure, écoute. Ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans le monde. Les délégués de l'Europe agricole pour regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée.
De façon générale, le monde d'aujourd'hui est gouverné par l'énergie.
Mais pourquoi tu t'es tué ?
Pourquoi je t'ai tué en général ?
Les choses apprennent les choses. Le bidule crée de bidule, y'a pas de hasard.
Alors quoi, merde, on peut plus dormir ?
Passons maintenant au plat, avec une recette qui aiguise l'appétit, le Civebio sauce chercheur. Il a été demandé à 3 d'entre vous de rédiger l'autobiographie d'un objet, avec une seule contrainte, que celui-ci soit issu de la famille des objets du chercheur. Alors Louis, toi qui as sauté l'entrée, comment t'es-tu débrouillé avec le plat ?
Alors moi j'ai choisi un objet qu'on voit finalement pas très souvent, qui s'appelle le lutrin. Ça ressemble à un pupitre, c'est pour porter un livre, pour faciliter la lecture. Et c'est un lutrin un peu grincheux et assez pessimiste. Donc je vous lis le texte qu'il m'a transmis. Bonjour. Je suis né aux environs de Compiègne, d'un être si mal éclairé que rien de noble ne pouvait sortir de son tordu de tronc. Mon enfance a sans doute été la plus belle période de ma vie. Je sais, c'est cliché. D'abord, j'ai très vite quitté la Picardie pour une coquette boutique parisienne. Surtout, je me croyais semblable à ceux qui m'entouraient. De hauts pupitres au port gracieux, d'élégantes couleurs et d'une digne envergure. Comme eux, le théâtre des Champs-Élysées, Garnier, Pleyel et la salle Gaveau me faisaient tourner la tête. C'était la faute de nos visiteurs endimanchés, qui n'avaient que ces noms à la bouche. Me sentant trop court pour un chef d'orchestre, moi, je me voyais bien à un poste de soliste. J'aurais alors porté Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, et enfin, le plus lourd, mais le plus grand, celui qui a rompu plusieurs de mes camarades, Richard Wagner. Mais le drame est arrivé quand j'avais 12 ans. En écoutant une conversation, j'ai découvert que je n'étais qu'un petit lutrin à 200 francs. La déception fut terrible. À ce prix-là, dans le milieu des lutrins, tout le monde vous le dira, faut même pas espérer une place dans le cœur d'une église. Voilà, je n'ai donc pas une goutte de sang de celui auquel Boileau a consacré son long poème en alexandrin, c'est dit. Un jour, un cloutard mal fagoté m'a pris dans son aisselle moite et m'a traîné dans sa banlieue. Je précise qu'un cloutard est un type de Saint-Cloud, mais vous devriez le savoir. Puis il m'a installé sur son bureau, pardon. J'étais seul, mais plutôt bien. D'abord, j'avais une vue imprenable sur la chambre. Les découvertes que j'y ai faites ces années-là feraient rougir le sofa de Crébillon fils. En plus, je travaillais pas mal, mais ça aussi, c'était très varié, car les lectures de mon binoclard dépendaient fortement de ses fréquentations, souvent des fontenaisiennes qui traversaient Paris pour nous rendre visite. Au début, je n'étais pas tranquille. Faut dire que ça a commencé assez fort. Accoutré de sa lavalière bariolée, il se plantait face à moi et enchaînait les déracinés, des pamphlets de Louis Veuillot, la poésie du jeune Maurras, celle d'Édouard Drummond, un autre genre, puis les romans de Brasillac et ses cousins les Hussards. Je commençais vraiment à ployer. Et puis la snob qui était là-dessous a disparu de la circulation. Soulagement. Pour d'autres raisons, je l'ai un peu regretté. Bon, mais la période sulfureuse se terminait et c'était tant mieux. Plusieurs milliers de pages et diverses passades plus loin, il m'a confié Albert Camus et François Furet, premier pas de l'aventure révolutionnaire. Je sais pas s'il a levé des barricades. En tout cas, il lisait en col roulé rouge et la chambre était en grand désordre. Ça a duré si longtemps que je commençais moi-même à y croire. Mais cet épisode aussi a eu une fin un peu différente des autres. Parce que la fille est restée, et elle s'est même installée. Moi, la chute de l'Empire soviétique et tout, j'ai d'abord cru que c'était une bonne nouvelle. Fukuyama n'est même pas resté plus de 3 jours, et puis on s'est mis à lire sur rang tous les 3. C'était génial. La chute du mur annonçait, finalement, l'ennui et ma mort. Ce que j'ai découvert quelques jours plus tard, puisque depuis, je ne sors que très rarement, pour d'écrasants volumes, pleins d'analyses des bois flottés, vieilles branches et autres fagots. Après tout, c'est un sujet consensuel. Sauf pour moi, vieux lutrin, qui doit supporter des histoires de bois morts. Mon oraison funèbre, en quelque sorte. Un beau jour, après une nuit plus longue que les autres, je me suis réveillé à Lyon sur un bureau tout lisse. Posé près de moi, il y avait un type très étrange, mais qui me ressemblait un peu. Il riait bêtement, me toisait avec arrogance. Jamais rencontré un gars aussi prétentieux. Il avait un accent américain, genre côte ouest, et un tatouage ridicule dans le dos. Le genre de tatouage « Oh my god, quelqu'un m'a collé un poisson d'avril ». Sauf que le tatouage était une pomme. Une pomme croquée. Et c'est pour ça qu'ils m'ont abandonné.
Non mais c'est triste. Et est-ce qu'on sait qui est cette personne qui est partie de Saint-Cloud à Lyon ? Est-ce que c'est Olivier Faron ou...
Ah non, l'histoire ne le dit pas. Il a voulu garder... Il n'y a pas de dédicace,
c'est dommage,
rien
on
du
avait
tout.
Un bel aperçu de sa vie privée.
Olivier Faron, des lectures bien dangereuses.
Et des relations
Camus,
sulfureuses. Est-ce qu'il y a un volontaire pour enchaîner sur le lutrin ? On avance dans le temps, par exemple ? On a un objet plus contemporain ?
J'ai pas plus contemporain à proposer.
Moi non plus.
Vas-y, Cyril.
Remontons le temps.
Donc pour vous, le chercheur, c'est quand même quelque chose d'assez
poussiéreux,
mais...
Il y a quand même des mots très graves qui ont été prononcés dans cette lettre du Lutrin. On a entendu parler de Wagner, de Hegel. Ça sent un peu la poussière.
Alors, il n'y avait pas de Hegel. Hein,
autant pour moi.
Autant pour moi. Alors, vas-y, dis-nous si tu rivalises.
Oui, alors, j'ai aussi une lettre à vous lire de la part d'un objet, mais qui n'a pas souhaité se révéler en introduction. Donc, vous aurez le plaisir d'essayer de deviner, c'est très difficile, de quel objet il s'agit. L'objet se présente comme l'objet du chercheur même. Je suis l'objet du chercheur même, nous dit-il. À tel point que je me demande si je ne suis pas à l'origine du fait même de chercher. C'est vrai que sans moi, tu peux chercher quand même, mais tu ne trouveras que ce qui est gros, très gros, ou alors tu ne trouveras rien du tout. Comme beaucoup de belles choses en ce bas monde, comme la démocratie ou le fromage de chèvre, je suis né en Grèce antique de la volonté d'un ingénieux inventeur qui a voulu, comme tous les autres, améliorer les faibles capacités de l'être humain. Au départ, j'étais juste une petite invention sympathique qui n'avait d'autre utilité que très ponctuelle et simplement dans un but de commodité. J'avais alors l'air bien conne. Oui, alors je suis une objet de chercheur. Et les tablettes, les papyrus et autres parchemins se payaient de belles tranches de rire dès lors qu'on évoquait mon nom. La suite de ma vie fut l'histoire d'un affrontement sans fin entre ces trois tocards et moi. Les hommes ont écrit sur eux, de plus en plus mal et dans des langues toujours plus nombreuses. Et moi j'étais là, impassible à faire mon devoir. Je sentais que je commençais à les agacer passablement, car les mystères qu'ils croyaient renfermer se révélaient systématiquement à mon passage. Après une brève trentaine de siècles à les humilier ainsi, je décidai que mon terrain de jeu devenait trop petit. Pourquoi se contenter simplement d'aider à chercher sur une feuille de papier quand on peut s'attaquer à l'univers tout entier ? Bon, j'avoue, j'ai dû passer sur le billard et endurer quelques coups de bistouri pour m'offrir un relooking total à la hauteur de mes nouvelles ambitions. Mais contrairement aux hommes, j'ai voulu devenir plus grosse, plus ronde, avoir un plus gros ventre. Je suis bien sûr devenue bien plus lourde qu'auparavant. C'était comme ça que les hommes m'aimaient à l'époque, et beaucoup venaient me câliner de leurs doigts et de leurs cils. Ce que j'avais de différent des autres, je les emmenais au septième ciel, je leur faisais quitter la terre, et je donnais une nouvelle dimension à leur vie. L'infiniment grand, c'était marrant 3 minutes, mais j'en avais vite fait le tour. D'ailleurs, je suis ravi que les hommes s'en soient rendus compte aussi, et j'ai prôné le retour aux fondamentaux, comme depuis le début. Ma mission, c'est de vous aider quand le monde est trop petit pour vous, et c'est pas de faire le cacou dans l'espace. Vous feriez mieux de me remercier, parce que si je n'avais pas eu cette intuition d'aller vers l'infiniment petit, vous auriez tous déjà crevé dans d'atroces souffrances, et pas du sida ou d'un cancer quelconque, mais d'une bonne vieille grippe ou d'une petite peste à l'ancienne. Aujourd'hui, je m'offre le luxe de suivre les canons de la beauté et de me présenter à vous plus fine et sexy que jamais. Vous n'avez même plus besoin de venir à moi puisque je vous suis toute la journée, que vous me portez avec vous et que nous ne faisons qu'un pour vous éviter de vous cogner au mur. En 35 siècles, j'ai non seulement permis à l'homme de chercher et de trouver, mais aussi d'avoir de plus en plus la classe, bien loin du caillou recouvert de verre poli que j'étais à ma naissance.
Il faut la nommer ?
Bah, si vous vous en sentez capable.
Oh, c'est la lentille. Compris, hein.
Ouais, la lentille, la loupe. Quoi. Oui, le verre correcteur dans toutes ses dimensions.
Ah, mais là, tu passes au masculin.
C'est vrai. Non, voilà, la loupe, le microscope, le télescope, la lunette. Voilà.
Alors, c'est quand même absolument merveilleux parce que Dieu sait que j'étais peu inspiré, que j'ai sué sang et eau pendant plusieurs heures pour essayer de trouver, sans la fascination amoureuse du premier Louis pour les objets du chercheur, un exemple un peu original, quelque chose qui sortirait des sentiers battus. Et finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Des saintes archives royales à l'encyclopédie dorée sur tranche et gorgée de latin. Eh bien, c'est la loupe. J'ai moi aussi pris la loupe, cette misérable béquille oculaire, accessoire désuet de l'innocent philatéliste. Elle ne pouvait finalement manquer de retenir ma pitoyable attention. Mais quel intérêt, bon Dieu, que la loupe ? Ce doit être triste à pleurer, pensons-y, qu'une vie de loupe, toute gâchée à amplifier, à scruter sans pudeur, à sonder jusqu'au fond d'une prunelle aveugle les cristallins opaques, les conjonctivites purulentes, les cornées desséchées. D'ailleurs, ne dit-on pas d'une vie de merde que c'est une vie loupée ? Alors, à qui s'est jamais soucié d'étymologie ? Il ne saurait échapper pourtant que les racines de la loupe plongent dans un terreau bien mortifère, empruntant bien sûr à lupa, la louve, mais aussi à lipun marinum, du nom de l'ogresse particulièrement redoutable des profondeurs aquatiques, mais également, bien que plus lointainement, je vous le concède, à Mélenchonneuil, bête méchante, hargneuse, stupide et légendaire des contreforts du Tartare. Averti de cette triste ascendance, vous observez déjà d'un œil neuf, à la loupe, c'était un peu facile, cet inquiétant instrument chirurgical de peau tannée, de cornes limées, d'acier tordu et de verre poli. Fermons les yeux un instant, au moins pour nous prêter à l'exercice, et mettons-nous dans la peau peu enviable d'une loupe, étrange scarabée dodu gainé de cuir râpé à la queue roide et noircie de crasse, à force d'avoir été négligemment pressé au creux des pattes moites et velues de rats de bibliothèque, dont le teint de parchemin pisseux emprunte aux incunables gondolés qu'il compulse avec frénésie. Admirez ma carapace rutilante et bombée de verre épais que patine le sébum gras d'un nez, d'une paire de cils imprudemment penchés sur l'eau de mon ventre gonflé. Loin de ces regards sévères, de ces fronts soucieux que vous m'imposez, concentrés sur vos grimoires qui me transpercent dans l'indifférence totale de mes appas, j'exige qu'enfin on m'observe moi dans ma rondeur plantureuse, qu'on embue ma lentille frémissante, qu'on me doite sous la table à l'aide dérobée, qu'on me vole, oh oui, que je sente ton cœur battre la chamade lorsque tu me soustrais à la surveillance inquisitrice de ces vieilles filles à la fleur fanée, cerbère des archives, que je puisse plonger mon œil de cyclope myope dans le noir fouillis de ta toison au relent de musc et de scrotum, y scruter le grouillement des parasites gorgés de tes croûtes séminales, les glaires séchées, bavures rectales des précédentes étreintes, laisser glisser sur le froid tétin de mon extrémité métallique le chaud baiser de ton prépuce baveux. Forcer enfin, enfin, la porte carmin de ce rectum d'étudiant constipé et me délecter de la douce déchirure de ta rondelle suintante, secouée de spasmes convulsifs, oh oui, de ta petite rose carnivore, happant à grande goulée ma mâle verge de fer, roide et consentante, tendue comme le salut des Césars, qu'elle enserre et entraîne de tous ses muscles bandés au-delà des flots fécaux du Styx anal vers les grondantes obscurités de tes entrailles fumantes. Leur haleine giboyeuse dépose une mince condensation sur la vitre émue de mon globe unique, où perlent déjà quelques larmes de joie. J'observe, je détaille la cicatrice sinueuse qui court des bourses crispées et soyeuses au col blanc moussu de ton anus dilaté, absorbant sa proie comme un boa surpris en pleine digestion. Je suis sourde, je n'entends rien, mais tes doigts me fouillent avec une insistance accrue, dérape sur mes lignes converses, tes paumes s'assèchent brusquement, et en toi, très profondément, je sens des poches qui se vident d'un coup, un grand élan te cabre, tes couilles semblent aspirer à l'intérieur de ce corps en transe d'où je sens déferler d'irrépressibles vagues de gaz. Tu me chies à plein sphincter, recrachant sur le sol carrelé mon manche lubrifié de tes sucs parmi les eaux souillées. Moi, dont les courbes féminines balançaient le lourd braquemar plombé dont tu as tant profité, moi, roide et ronde à la fois, me voilà fendue, aveugle à mon tour, impropre à tout, sinon à accueillir sur mes lèvres de verre tranchant comme le fil du rasoir, le dernier baiser de mon premier amant. Vous comprendrez donc pourquoi j'ai appelé ce texte « Autobiographie oculaire
». C'était Fabrice Lucchini.
Georges Bataille s'emparant d'une loupe n'aurait pas fait mieux.
Pierre Desproges.
C'est très gentil.
Je suis sûr que ça a beaucoup plu à Corentin, qui est un petit fan de Georges Bataille.
Ah, mais il me caresse sous la table depuis tout à l'heure.
Je veux être une loupe.
Je ne vais pas te louper.
Merci d'avoir donné une nouvelle image de la recherche. Et est-ce que vous êtes prêts pour passer au dessert?
Ça m'a mis en appétit, moi.
Une tarte au chocolat.
Il y a un petit alcool pour faire passer le tout.
Well, bon, Nemeth calls it his own. While the hummer wanders alone, they both go out to play on that cold and rainy day. And while Nemeth sings us his song, while the hummer wanders along, but in the